Ouais,
mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux?
Ils sont comme des fous ce matin.
Je suis comme un fou.
Ouais, ouais, moi aussi, je suis comme un fou.
Ouais. Ah bon? Ouais, mais c'est pas pour la même raison. Ouais. En fait, on reçoit Claire Chazal.
On reçoit Claire Chazal.
Pourquoi on reçoit Claire Chazal?
Oh, laisse-moi deviner. Attends, parce qu'il y en a un qui est amoureux d'elle.
C'est moi.
Et puis il y a l'autre qui est remonté contre son précédent employeur.
Oui, exactement, c'est ça.
Je dis pas qui est quoi.
Non, non, ça va aller, merci. Bon, Alex, tu vas te calmer et te concentrer.
Je suis trop content parce que.
Je vois, oui.
Moi, les trois femmes avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, c'est ma maman, c'est Dorothée et c'est Claire Chazal.
Ouais, évidemment, tu regardais TF1.
Excuse-moi, j'étais pas abonné à l'Humain. Non.
Et Guillaume, toi, tu vas être gentil avec l'invité.
Je suis toujours gentil avec l'invité.
Bien sûr, Maud Fontenoy s'en souvient bien.
Mais je vais quand même lui demander ce que ça fait de travailler pour Bouygues.
Voilà. Elle vient pour des lectures.
Une correspondance amoureuse.
C'est ça, d'Alain Fournier.
Alain Fournier, c'est bien, il a bossé pour qui? La Gardère, travaillé, c'est bien.
Non, enfin, il a écrit le Grand Maul.
Le Grand Maul, pas le Grand Capital. Et les correspondances, c'est une belle histoire d'amour entre une femme plus âgée et un homme plus jeune.
Oh, tu vas te calmer.
Bon, quitte à faire des lectures, c'est bête qu'elle lise pas ses meilleurs lancements de 20h plutôt. Tu vois, tout de suite, la météo des plages.
Bon, toi aussi, tu te calmes.
Si on cherchait des sujets.
Oui, ok, alors bon, des idées.
Bah, l'amour,
la pub à la télé, à la limite.
Ok, c'est bien. Ça m'intéresse d'avoir l'avis de Claire Chazal sur la pub à la télé.
Oui, et puis moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Claire Chazal sur l'amour.
Voilà, enfin, voilà.
Je pourrais tomber sous le charme.
Pourquoi?
Mais je lui donnerai des conseils de carrière.
Mais c'est moi qui suis amoureux de Claire Chazal.
Silence. Bon, maintenant qu'on est prêt.
Oui.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 17h sur France Inter.
Fait bien Claire Chazal.
Fait très bien.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui n'a ni Dieu ni maître de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont donc blasphémer en direct le jour de l'ascension. La rencontre des présidents Trump et Macron, c'est l'image qui nous rappelle que le monde a changé. Sur le papier, c'est la jeune France, 39 ans, qui rencontre la vieille Amérique de 70 ans.
Je critique pas le côté farce. Mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire.
La reproduction des dauphins et des orques en captivité est désormais interdite en France, ce qui signifie que d'ici une vingtaine d'années, les delphinariums vont mettre la clé sous la porte de la piscine. Les défenseurs de la cause animale sont déterminés.
On s'en va, Willy ! Elles sont dans Ryan !
Quand une émission commet une erreur qui ébranle l'ordre public, c'est l'argent de la publicité qui fait le gendarme. Pour l'instant, le boycott de la réclame est autrement plus efficace que l'autorité. Compétente, le CSA.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.
Ah, ça c'était Cyril Hanouna, pardon. Je suis accompagnée de celui qui aurait toute sa place dans... Ça c'est un vieux lancement que j'ai écrit.
Eh ben oui, sans doute que c'était une méchanceté, j'imagine. Vous
n'auriez pas dû m'inviter à déjeuner.
Qui aurait toute sa place dans un delphinarium.
Très bien. Voilà,
sauter dans les cerceaux de la Brèche.
Exactement.
Bonjour à tous, aujourd'hui, autour de la table, belle équipe, 17h20, celui qui dans sa dernière chronique, en parlant de lui-même, s'est auto proclamé héros générationnel, le poste modeste Hippolyte Girardot.
Mais je rêve.
Mais si, c'est vrai ce qu'il avait dit.
Mais je l'ai dit, bon, d'accord.
De quoi on va parler?
On va parler de Cannes, puisque je fais du cinéma, que j'ai été à Cannes. Je vais parler de Cannes, voilà,
oui,
dans l'actualité.
Je parle de moi, d'Hippolyte Girardot. À 17h30, celui dont c'est un peu la journée, car lui, c'est l'ascension permanente. C'est vous, Guillaume Meurice, bonjour.
Oh, c'est beau, c'est cadeau. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi, je suis allé à un meeting de la France Insoumise hier soir et j'ai cherché des défauts à Jean-Luc Mélenchon auprès de ses militants.
J'aime pas le quinoa.
Ah, le quinoa, ça passe pas. Ça passe pas. Ouais, ça marche pas.
17h40, le cerveau de cette émission, celle qui est capable d'écrire un essai philosophique complet sur l'importance d'avancer le pied droit après le pied gauche lorsqu'on décide d'avancer. C'est Isabelle Sorande, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi, je vais vous parler de poésie des escalators aujourd'hui.
J'étais pas loin. Et à 17h55, on n'est pas vendredi et pourtant vous aurez votre cadeau. Si la semaine des 4 jeudis n'existe pas, celle des 2 vendredis. Oui, Frédéric Fromet viendra nous chanter un inédit.
Et je me tourne à présent vers celle qui a tout annulé pour nous. Vous êtes diplômé d'HEC, puis vous tournez mal, car vous devenez journaliste. D'abord pigiste à Europe 1, vous êtes destiné ensuite à présenter les journaux du week-end sur TF1. Vous êtes l'auteur de 2 romans, L'institutrice et À quoi bon souffrir. Et puis Le dérapage, une biographie d'Edouard Balladur. Ça, on ne comprend pas.
C'était avant.
C'est juste votre premier ouvrage. Et vous présentez Entrée libre sur France 5, Soyons clairs sur France Info, et tous les vendredis sur Radio Classique, vous proposez un entretien intitulé L'interview de...
Je sais pas.
Qui êtes-vous?
d'abord, alors je suis passée par la presse écrite auparavant.
Vrai. Le Matin de Paris notamment.
Le Quotidien de Paris.
Le Quotidien de Paris. Voilà. L'Usine Nouvelle.
Non. Le Quotidien de Paris, les Échos. Le Quotidien de Paris était mon premier journal et mon premier maître fut Philippe Tesson et que j'aime infiniment. Voilà.
Mais qui êtes-vous?
Mais je suis ça. Je suis journaliste.
De toute façon, on a reconnu votre voix.
Bah oui, c'est Claire Chazal.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Claire Chazal à l'école du Matin de Paris, donc.
Non, du quotidien
de Paris, excusez-moi.
Je suis belge,
je ne connais pas.
Si, le Quotidien de Paris, brillant journal d'opposition à l'époque, puisque c'était en 81 et qu'il s'était décrété de droite, mais enfin, on a bien rigolé surtout.
Philippe Tesson, que vous entendrez demain, car demain, vous aurez le droit à un florilège de cette émission. Et le jour où nous avons reçu Philippe Tesson, il nous a mis un sacré bazar dans l'émission.
Ça ne m'étonne pas.
Il est encore bien vert.
Il est formidable. Tous les soirs au théâtre et le matin à la radio.
C'est vrai. Et vous aurez droit demain. Claire Chazal, vous venez nous voir parce que vous faites des lectures. L'intimité de grands personnages, les coulisses d'une œuvre, tout cela se retrouve au théâtre Pépinière,
très beau
n'est-ce
théâtre.
Pas ça s'appelle Intimité publique, lettres, correspondances, carnet, journal, du 9 au 11 juin. Vous viendrez le dimanche 11 juin à 14h pour lire avec Jules Sagot. Vous, dans cette lecture, vous êtes comédienne, elle se fait appeler Madame Simone et elle publie la correspondance de sa courte liaison avec Alain Fournier. Ils se sont rencontrés en 1912 alors que son mari, à Simone, c'est ça, Casimir oui. Perrier, engage Fournier comme secrétaire particulier.
Et outre le thème... Kioche,
oui, ça lui parle. Et outre le thème amoureux qui se développe, évidemment, dans cette correspondance, elle dévoile aussi la naissance du grand monde, c'est ça ? C'est l'entrelà entre l'intimité et le processus créatif, parce que lui est écrivain.
Voilà, oui, c'est bien résumé. C'est une histoire d'amour. Ils n'ont pas tout à fait le même âge.
Mais c'est pas grave, ça, Claire.
Mais c'est pas grave du tout. Il est très jeune et effectivement très prometteur. C'est un romancier qui va naître avec le grand môle dont elle voit la naissance et l'éclosion d'un écrivain. Oui, voilà. Et c'est cette histoire d'amour, en fait, qui est re-racontée après, grâce à ses lettres. Mais c'est très beau, la correspondance, parce que ça vous fait rentrer dans l'intimité. Et évidemment, il y a aussi un effort d'écriture, parce qu'à l'époque, même encore aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'il y a des correspondances contemporaines dans ce festival de lecture, il y a aussi l'idée qu'on laisse une trace, qu'on met des mots sur des sentiments, et ça comble peut-être le vide aujourd'hui de la non-écriture, ou en tout cas de la disparition de ces textes écrits.
C'est un personnage assez impressionnant, cette Madame Simone, parce qu'on connaît plus Alain Fournier, qui est mort jeune. Elle a vécu jusqu'à 108 ans.
Ah oui, alors je dois dire que vous m'apprenez son âge. Je ne savais pas qu'elle avait vécu.
Elle est décédée en 1985 à Paris.
Merci.
Ah ben voilà, non, j'ai trouvé ça. C'est un personnage que j'ai découvert.
Depuis qu'Alex Vizorek sait que vous venez, il bosse avec une force.
Il a jamais fait ça avec un invité.
Quand on a eu 10 la peste, j'ai même pas écouté une chanson, mais avec vous, je suis au taquet.
Lui, il savait que c'était le Matin de Paris, par exemple. Ça, il savait.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même imaginer des mises en scène, même si ce sont des lectures et qu'il y a tout de même des mises en espace et qu'on peut traduire des sentiments. Moi, qui ne fais que, comme vous, au fond, dire des textes, dire les faits, j'essaye là de creuser le registre de l'émotion. Et c'est ça qui est passionnant.
Vous avez choisi cette correspondance-là parce que c'est tout un festival. Il y a énormément de différentes correspondances avec énormément de paires d'acteurs.
Et notamment Fanny Cottençon, Vincent Dedienne, Michel Viermoz ou Jacques Weber.
Gérard Bessard. Enfin, on constate que les grands comédiens viennent. Alors, il faut préciser qu'ils viennent beaucoup aussi par fidélité à une femme qui s'appelle Anne Rothenberg, qui a monté ce festival, qui avait d'ailleurs dirigé le festival de la correspondance à Grignan, auquel j'ai souvent participé, qui a monté maintenant un festival à Biarritz. Bref, qui est passionnée de correspondance, oui. Qui aime creuser cette intimité-là. Et là, elle est allée chercher des personnages publics qui ont fait notre histoire ou l'histoire de la littérature pour raconter leur intimité et les échanges épistolaires qu'ils ont pu avoir.
Avec une mise en lecture de Richard
Alors,
Brunel.
Alors moi, j'ai la chance d'avoir Richard Brunel qui dirige aujourd'hui le Centre Dramatique National de Valence, qui est un très, très beau metteur en scène d'opéra et de théâtre, et qui, nous dirige avec Jules Sagot.
Il y a quand même une mise en espace, comme vous dites.
Oui, c'est pas absolument. Mise en scène, mais... Et j'apprends beaucoup avec lui, moi qui ne fais pas ce métier. Ce n'est pas mon métier.
C'est donc un festival qui s'appelle Intimité publique, lettres, correspondances, carnet, journal, la Pépinière Théâtre, du 9 au 11 juin.
Trois jours, un week-end.
Exactement.
On peut venir à plusieurs heures
de la journée.
Et vous
lisez dimanche, le 11 juin à 14h, vous, en compagnie de Jules Sagot.
Voilà.
On va y revenir, je pense que ça a inspiré Hippolyte, n'est-il pas ?
What?
Non, rien.
Non, non.
Rendormez-vous.
On vous réveille.
Vous êtes sur France Inter. Claire Chazal est avec nous.
Arrêtez de
me
traiter comme un vieux Mexicain parce que ça va m'énerver à un moment donné.
Salissant les pare-brises, je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés. Accordez les yeux clos, il faut les leur ouvrir de force à coups de rasoir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bonzes qui s'envoient en l'air alors qu'il y a des millions de voitures sans carburant. Je suis inadaptée. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés, susceptibilité. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à midi. Pourtant, c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je voie le mal partout. Je suis inadaptée. Je n'aime pas les gens dont la gorge est tranchée et les yeux arrachés. Les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot, y a pas de quoi rire. Je suis inadapté. Je suis inadapté.
Je suis inadapté, nous chante Brigitte Fontaine.
Tiens, tiens.
Mais oui, Brigitte Fontaine, ben oui, ça, sur France Inter.
C'était la mieux placée pour le chanter.
Effectivement. Et nous sommes en compagnie de Claire Chazal, qui nous accompagne en ce jour férié. Nous sommes en direct, il est 17h21. Et pour accompagner Claire Chazal, Alex.
Eh bien, il y a Guillaume Meurice, il y a Hippolyte Gérardo, et le meilleur pour la fin, il y a Isabelle Sorr.
Et, dites donc, et là, on va faire un journal devant Claire Chazal.
Ah, oui, c'est vrai que j'ai
pas pensé. L'angoisse.
Leçon.
C'est notre
journal de presque 17h17.
Roger. Belle organe. Merci.
Et merci à Philippe Jarouski qui nous a enregistré ce jingle.
Ah oui, si c'est pas classe.
Formidable.
On commence par les titres.
Oui, les conseillers de Donald Trump auraient demandé à Emmanuel Macron d'être concis et clair pour maintenir l'attention du président.
On parle d'Emmanuel Macron, on aimerait tous qu'il soit concis et clair.
Affaire Richard Ferrand, les Républicains vont saisir le parquet national financier.
Ah oui, c'est un peu comme si Marc Dutroux accusait Chantal Goya de parler aux enfants.
Il y aura des brèves.
Oui, et c'est une assertion de brèves. Car aujourd'hui, c'est l'Ascension.
Oui, pour les chrétiens, la fête qui correspond à la montée de Jésus vers le ciel.
Voilà, et pour nos contemporains qui le commémorent traditionnellement en descendant dans le sud.
Passons donc à cette rencontre historique entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Les conseillers de Trump auraient demandé d'être concis et clairs pour maintenir l'attention du président américain.
Autant vous dire que l'encyclique de 200 pages sur le réchauffement climatique que lui a offert hier le pape a peu de chances de retenir son attention.
Et donc Emmanuel Macron s'est exécuté. On écoute les premiers échanges entre les deux hommes.
Je ne suis pas leibnizien dans l'écriture de l'histoire. C'est pour ça que je ne vous le dis pas aujourd'hui, parce que ce serait intempestif, au sens propre du terme, ou au sens nietzschéen du terme. Tu es le confluent d'un fleuve dans lequel tu t'inscris, qui est justement ce roman et ce récit.
Ah oui, c'est que le début.
Hein, début,
on va trouver des
points. Oui, on va trouver des points d'accroche. Affaire Richard Ferrand, accusé d'avoir embauché son fils lorsqu'il était député suite.
Voltaire.
Un des conseillers de son cabinet a tenté de justifier cela en déclarant, je le cite, « Je vous invite à aller faire un tour en centre-Bretagne. Ce n'est pas simple de trouver un jeune volontaire pour travailler 5 mois qui sait lire et écrire correctement. Allez sur Internet. » Fin de citation.
Voilà, quand tu as des communicants comme cela, tu n'as pas besoin d'avoir des ennemis.
C'est vexant tout de même, non ?
Oui, c'est vexant, mais pas de panique, excusez-moi, mais les habitants de Centre-Bretagne ne sachant ni lire, ni écrire, ni aller sur Internet, ces propos insultants ne devraient jamais leur parvenir.
Passons à Jean-Luc Mélenchon.
Oui, bah, il s'est rendu en Syrie, apparemment.
Ah, bah, vous êtes sûr ?
Oui, enfin, pour parler à des jeunes djihadistes.
Non.
Ah, si, si, bah, écoutez, ah, il leur a dit...
Venez un peu ici. Arrêtez ça. Arrêtez. Calmez-vous, vous passez pour des barbares après. Donc vous arrêtez ça parce que vos parents, ils ne seraient pas contents de vous voir faire ça. Tout le monde à la maison maintenant. Allez.
Mais Alex, oui. Bah non, mais c'était devant une école à Paris. Ah, il y avait des gamins qui l'ont reconnu. Quoi.
C'est beaucoup moins courageux du coup. Passons à la suite.
Excuse-moi. Vie privée. Oui. Emmanuel et Brigitte Macron ont mis en demeure Voici et Closer.
Ben, c'est normal, c'est honteux de prendre le boulot de Paris Match comme ça.
C'est pas
bien.
Santé, l'usage de cannabis sera bientôt puni d'une simple contravention.
Prendre la même punition pour un excès de vitesse alors que le cannabis fait ralentir, c'est très injuste.
Culture.
Oui, au Festival de Cannes, une actrice amateur a écrit dans son dos pour la montée des marches « Cherche rôle ». 06 85 11 71 24. Eh ben, ça peut marcher, on sait jamais.
Hein. C'est une méthode. Hein.
C'est une méthode. D'ailleurs, Patrick Cohen s'est fait tatouer sur le front. Cherche humoriste drôle à emmener à la matinale d'Europe 1. 06 64
80. Merci. Ça va. Pas non plus les envoyer là-bas, quoi. Oui. Maintenant, les grèves.
Oui, au Koweït, la police a arrêté un pigeon avec 200 comprimés d'ecstasy dans son sac à dos. Maintenant, les pigeons font les mules. Où s'arrête la science?
On termine par la France.
Oui, à Rennes, avec un homme emprisonné pour avoir menacé sa femme avec une tronçonneuse.
Enfin...
Ben oui. Mais excusez-moi, mais David Copperfield, quand il coupe la femme en deux, on l'applaudit. Et puis en plus, moi aussi, je coupe les femmes en deux.
Ah bon?
Bah parce qu'on dit femme qui rit à moitié dans son lit. Et puis,
Bah oui. Puis comme l'autre moitié vient jamais.
Bah, c'est ça, voilà.
Oui.
Voilà.
Oui. Et l'homme joue à la pépinière aussi, je vous le rappelle.
Désolé, Claire Chazal.
Les mardis et dimanches.
Voilà, il n'y a plus qu'un dimanche.
Heureusement, pour relever le niveau, il y a le festival Intimité Publique.
Merci.
Lettres correspondance, carnet journal. C'est du 9 au 11 juin, avec notamment Claire Chazal. On va aborder ce premier sujet avec vous. Aujourd'hui, séjour de dépucelage international pour Donald Trump et Emmanuel Macron. Ils participent à leur première réunion multilatérale, le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Les deux hommes ont déjeuné pour parler des problèmes du monde. Et voici ce que notre président a dit au PDG de l'Amérique.
C'est le numéro 1. Je suis la vedette. Il y a toute la France qui me regarde. Bonsoir la France. C'est dur en ce moment. Hein. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça ira. Comme disait un industriel bien connu à son chauffeur, au moment où il lui refusait une augmentation. Croyez-moi, Lucien, c'est pas nous les plus à plaindre. Ah là 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 là. Tous ces pays qui crèvent de faim, c'est pas possible, ça va péter de partout. Les Chinois, les Indiens, les Africains, moi ça me fout une angoisse.
Voilà, ils se sont rencontrés tout à l'heure.
Guy Bedos, oui,
tout à fait, Guy Bedos, bien sûr.
Ah, c'était pas vraiment Emmanuel
Macron. Non, c'était pas Macron.
Peut-être
les gens
se disent, mais c'est qui ?
Claire Chazal, ce déjeuner, cette rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, tous les deux présidents au sommet de l'OTAN, est-ce que cette, à la rigueur, cette image, cette photo, cette poignée de main, c'est aussi le symbole d'un monde qui a changé ? Quand on réalise qu'on a Macron face à Trump, on se dit, là, c'est l'image qui nous fait dire qu'on est dans une autre ère, ou c'est simplement une alternance et que...
Je pense que tout le monde a eu le sentiment, en tout cas en France, c'est les événements les plus récents, que le système politique avait changé, que la vie publique était bouleversée, simplement parce que est arrivé à la tête de l'État un homme jeune qui n'avait jamais fait de politique, ou très peu, et qui bouleversait déjà les codes par le choix de ses ministres, par son emploi du temps, par il a déjà rencontré Angela Merkel, aujourd'hui il est avec Trump, lundi il sera avec Poutine, ça va vite.
Cela dit, François Hollande était tout de suite allé voir Angela Merkel.
Oui, c'est vrai.
Enfin, presque.
C'est vrai.
Oui, il était allé le jour même de son investiture.
Mais tout va vite.
Oui. Mais ça va vite. Mm-hmm. Il veut aller par ordonnance pour réformer le code du travail, notamment. Il veut rester discret. Il prend un peu le contre-pied, au fond, de ses prédécesseurs, ou en tout cas des prédécesseurs les derniers, où la parole n'était pas rare. Le président s'adressait beaucoup aux journalistes et aux autres. Je pense que là, il veut, présidentialiser. sa place.
Mais le sommet de l'OTAN, il était prévu, donc c'est pas lui qui va vite. Et il rencontre Trump. Et là, cette image, on se dit, bah voilà, on a un nouveau président qui est très jeune. On parle toujours de la vieille Europe,
et
de la vieille
aussi
France.
Évidemment, l'arrivée de l'autre président nous a aussi surpris.
Et l'autre, l'Amérique, qui est le nouveau continent, où le président a 70 ans. Donc il y a quand même une forme d'inversion quand même qui est un peu symbolique. Mais est-ce que derrière, ça peut dire quelque chose ou pas?
Alors, on ne sait pas. Enfin, ceux qui observent Donald Trump disent que, au fond, ses premiers actes, parfois, ont été salués par la communauté internationale, notamment sa frappe en Syrie. Alors, elle est allée vite. Mm-hmm. Il a frappé aussi en Afghanistan. Finalement, il parle aux Chinois, il parle aux Coréens. Tout ce qu'il avait dit, il ne le fait pas vraiment. Il n'a pas réussi à réformer l'Obamacare. Il n'arrive pas à faire tout ce qu'il avait prévu, tout ce qui pouvait terrifier les observateurs. Donc, au fond, je ne veux pas dire que sa personnalité n'est pas sa personnalité, mais il faut peut-être attendre. Même chose pour Emmanuel Macron. C'est un bouleversement, incontestablement, je crois, pour les Français. On a eu, comme avait dit Laurent Fabius le jour de la passation de pouvoir, c'est une élection chamboule-tout, et ça, c'est vrai.
Le thème était bien choisi. Bon,
est-ce que c'est pas juste un bouleversement dans la forme? Parce que dans le fond, la politique, on la connaît, c'est une politique libérale qui a déjà été appliquée.
Ce n'est pas impossible, il faut attendre. Effectivement, il se situe, le dit lui-même. Il ne dit pas d'ailleurs ni à droite ni à gauche, il dit à droite et à gauche. Il ne dit pas au centre, il dit prenant les bonnes idées de gauche. Et les bonnes idées de droite, toujours en même temps, mais au fond, c'est aussi, ça fait partie de la complexité du monde, et c'est ça qu'il veut dire quand il dit en même temps, il y a du blanc et du noir, et c'est pas forcément idiot. Après, peut-être qu'effectivement, dans les actes, rien ne changera profondément, en tout cas dans les solutions à apporter au vrai problème qui est quand même le chômage.
Et entre Emmanuel Macron et Donald Trump, il y a l'inamovible Angela Merkel.
Ah, oui. c'est vrai qu'il va être sûrement réélu, si on en croit les... des prévisions électorales en Allemagne.
Donc. Claire Chazal qui reparle avec nous d'actualité, ça fait plaisir de vous entendre encore dans ce registre, mais je rappelle aussi que on peut vous voir sur on s'en rend bien compte. On vous retrouve évidemment dans Soyons Clairs sur France
Info.
Et là,
ça m'a obligée justement à revenir, j'allais dire, un peu plus professionnellement dans cette actualité générale, et notamment la campagne, puisque effectivement je fais réagir des intellectuels. Enfin
sur France Info, le week-end deux fois, le samedi et le dimanche. Voilà. Et puis bien sûr...
Peut-être.
Et puis bien sûr, Entrée libre sur France 5 du lundi au vendredi à 20h15. Et là, il s'agit de culture. La main est tendue à Hippolyte Girardot.
Bien évidemment. Bien évidemment. En même temps. Donc j'ai donc été au Festival de Cannes et donc je me suis dit, après tout, pourquoi pas, puisque c'est mon métier, pourquoi ne pas faire quelque chose là-dessus? Donc je peux vous parler de Cannes, puisque j'y étais. Vous racontez dans le détail les incroyables mesures de sécurité entourant le tapis rouge. Les portiques, les miroirs passés sous les voitures officielles, les snipers, les comminatoires demandent d'ouverture des fenêtres pour bien vérifier les passagers, oui, mais vous en parlez est indécent au regard des drames autrement plus graves. Je peux vous parler de Cannes, évidemment, puisque j'y étais, et vous dire que ça n'est pas si différent qu'ici, que les puissances financières du luxe ultra-visible du festival sont largement aussi puissantes que les annonceurs de C8, car ce sont les mêmes, que l'énorme palais qu'on a appelé très vite le bunker est comme un iceberg. Ce que vous voyez n'est que la partie émergée et chatoyante sous les soleils de la célébrité, séduisante comme un voyage à Ushuaïa, d'une énorme masse 8 fois plus lourde et massive, qui est le fondement du festival, sa vraie puissance, celle du marché. Où s'échange une telle masse d'argent que même le directeur du festival ne la connaît pas. Mais on peut supposer... que si on créait une sorte de taxe Tobin sur ces échanges, on pourrait affréter des bateaux, installer des campements, engager des infirmiers, des cuisiniers, des enseignants pour accueillir les migrants qui se noient à quelques centaines de kilomètres de cet écran le plus beau du monde qui nous montre des films sur ce drame. Je pourrais vous parler de Cannes, évidemment, puisque j'y étais, et supposer que Cannes est notre selfie, ou comme on dit à Montréal, notre égo-portrait, monstrueux et flatteur, surexposé et ignoble, sous-exposé et attirant, notre enfant surdoué, comme celui du tambour, mais aussi notre Médée cannibale, comme l'était Brando dans Apocalypse Now, les deux films Palme d'Or en 79. Mais en fait, qui mieux que Cannes peut parler de Cannes? Qui mieux que les films sont capables de le dire? Et de le dire comme les films le disent, c'est-à-dire mystérieusement et universellement, avec force, avec grâce, par le truchement de la lumière, de la caméra, de la musique, des acteurs et des actrices. Ça, évidemment, je peux parler des actrices puisque j'y étais. Et que de toute façon, parler des actrices n'est qu'une façon élégante de parler des femmes qui font tourner le monde, les seuls êtres humains qui peuvent dire « nous » quand elle parle d'elle, narguant l'autre moitié de l'humanité qui ne sait et ne peut dire que « je ». ».«
Et oui, ça aussi, je peux en parler parce que j'y étais. J'y étais un jour dans ce « nous ». Et d'ailleurs, un peu en avance, bonne fête maman. Oui, je peux parler des actrices. Et à Cannes, parce que j'y étais. Portrait de femme par des femmes. Il faut voir les proies de Sofia Coppola qui raconte l'échouage d'un homme dans un pensionnat pour femmes durant la guerre de sécession. Pensionnat régi par Nicole Kidman et une règle grammaticale explicite. Il n'y a pas de pronom « il » dans leur manuel de langue française. Il faudra revoir la cérémonie d'ouverture avec une Bellucci impériale. Il faudra lire l'interview de Claudia Cardinal qui a eu une photo corrigé, mais dont la vie n'est qu'une lutte faite avec le sourire et la force. Et il faudra attendre dimanche pour savoir si le palmarès sera plus juste envers elle. Mais en attendant, il faut voir Twin Peaks, dont l'influence de la première saison sur notre rapport aux héroïnes de cinéma fut profonde et irrémédiable, irréversible. David Lynch et Mark Frost ont créé des personnages de femmes victimes ou folles, mais dont la puissance sexuelle et la capacité de résistance ont réussi à fasciner puis marginaliser les héros masculins. Grâce à cette série originelle, moi j'ai pu entendre avec joie et envie Macha me dire « Ma libido est affolée ce printemps, je me masturbe beaucoup plus. » Et je n'ai pas ri en lui répondant « Oui, oui, moi aussi, avant de tomber amoureux. » Qu'en sera-t-il aujourd'hui 25 ans après ? Que Cannes va-t-il nous raconter ? Où en sommes-nous ? À travers Twin Peaks, Cannes, peut-être, nous le dira.
Hippolyte Girardot, merci. Et rappelons que vous étiez à Cannes pour le film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin, oui. Où vous jouez entouré d'actrices, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, et la dernière actrice, c'est Mathieu Amalric, c'est ça, je cherchais.
Mais nous sommes tous des actrices, nous les acteurs.
Merci Hippolyte. Hippolyte qu'on a rencontré, qu'on avait invité pour le festival de les correspondances de Grignan, bien sûr. Claire Chazal est une habituée, bien sûr. Et puis la correspondance, il en est question à la Pépinière, théâtre du 9 au 11 juin dans Intimité publique. Claire Chazal interviendra dimanche 11 juin à 14h. Et Claire Chazal est avec nous jusqu'à 18h. À venir Guillaume Meurice.
Aïe.
artiste, I'm not running away. Mais non, ne restez surtout pas rester avec nous. Vous êtes sur France Inter. Et quelle coïncidence, Claire Chazal est avec nous. Ça tombe bien. À côté de vous, Claire Chazal, il y a un passage obligé à cette émission.
Je suis désolé.
C'est quoi, c'est une blague?
Non, ça va faire mal. C'est comme un sparadrap qui s'arrache très très vite. C'est Guillaume Meurice.
Oui, moi je vais vous parler de la France Insoumise aujourd'hui, qui n'est toujours pas le titre d'un porno salaud maso des années 80. Je veux dire, Alex, il galère un petit peu en politique française. Non, c'est un mouvement politique qu'on connaît, ici, bien sûr, autour de cette table. Il y a même des sympathisants. Suivez mon regard. Merde, je louche. Bon, alors, c'est un mouvement qui a la particularité d'être très actif sur Internet. Ça, on en sait quelque chose. En particulier, dès qu'on critique leur leader Jean-Luc Mélenchon, ce sont des gens qui aiment bien écrire. Voilà. Ils nous écrivent régulièrement. Rien que de dire, tiens, leader Jean-Luc Mélenchon, je pense que je viens de recevoir 40 tweets.
Il y a du tweet.
Me traitant de suppôt du système et m'accusant de faire le jeu de George W. Bush. Si je continue dans 5 minutes la mort de Martin Luther King, c'est pour ma gueule. Donc je fais gaffe. Mais je continue quand même. Je suis allé hier soir à Montreuil où avait lieu un meeting d'Alexis Corbière qui se présente donc aux législatives sous l'étiquette de la France Insoumise pour poser la question de la verticalité du mouvement. Est-ce qu'il pourrait survivre ce mouvement sans Jean-Luc Mélenchon? Demandons à un premier militant.
Faut pas se poser des questions qui existent pas, vous savez. Est-ce qu'on peut survivre?
Mais si, ça c'est ma question, elle existe.
Est-ce qu'on peut survivre sans air, sans eau? Enfin, vous savez, moi je pense que
vous comparez Jean-Luc Mélenchon à un élément vital.
La question n'est pas là.
Si, c'est la réponse qui n'est pas là. Ah, là, je parle sous contrôle de Claire Chazal, qui a eu l'habitude de poser des questions, puisque je le rappelle, vous avez travaillé pas mal à la télé à une époque où vous vendiez du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Voilà, hop, une petite boutade de gauche qui me permet de faire chuter le nombre de tweets mécontents 12 par seconde. C'est une petite stratégie.
Pas la première fois.
Mais poursuivons sur l'aspect vertical du mouvement avec un autre militant.
À part Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon,
oui.
Est-ce que vous pouvez me citer 3 autres noms de porte-parole de la France Insoumise?
Vous savez, je ne suis pas dans les noms. Lui-même, Jean-Luc Mélenchon, le dit tout le temps.
Ah bah si Jean-Luc le dit, alors excusez-moi, c'est pas Jacques Addy, c'est Jean-Luc Addy, c'est un autre jeu, où si tu perds, t'es considéré comme un social traître et condamné à vivre 2 ans dans la tête de Dominique Seux. C'est dur, mais est-ce qu'il a quand même des défauts, ce Jean-Luc?
Comme on dit, vous connaissez la phrase, il a certainement les défauts de ses qualités.
Alors c'est-à-dire?
C'est-à-dire que si par exemple il est pour la justice, alors il est contre l'injustice. Mais comme il faut de tout pour faire un monde.
Ça on dirait un petit peu du Pascal Obispo.
Ah peut-être.
Ah merde, excusez-moi, je viens de comparer Jean-Luc Mélenchon à Pascal Obispo. Attendez avant de tweeter, je le referai plus, je le jure sur la barbe de Karl Marx. Pardon, en même temps la barbe de Karl Marx, il est à noter quand même que la France Insoumise et les communistes ont pas été foutus de trouver un accord pour les législatives. Ils militent pour la protection animale, mais au championnat du monde d'enculage de mouches, ils sont toujours premiers, n'est-ce pas monsieur?
Les communistes et le capitalisme pervers, c'est du pareil au même, c'est deux frères siamois.
Ah, vous êtes sûr à ce point-là?
Mais bien sûr, bien entendu.
Ah oui, c'est pour ça que vous êtes fâché avec les communistes alors?
Mais je ne suis pas fâché avec les communistes.
Vous venez de les traiter de capitalistes pervers?
Je suis fâché avec l'ensemble de la classe politique.
Non, attention, l'ensemble de la classe politique, sauf Jean-Luc. Attention, sinon on va encore me dire que cette chronique est un cadeau d'adieu à Patrick Cohen. Non. Jean-Luc, il va combattre le mal partout en France, au risque de se faire traiter, c'est vrai, de parachuter. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les militants?
Je suis pas sûr d'être pour ni d'être contre.
Ça, c'est un peu Macron, ça, attention.
Oh non, reparle.
Ah bah ouais. Ah bah je sais bien, mais ni pour ni contre, je suis d'accord avec tout le monde. Là, c'est non, carrément.
Ça, c'est sa prise d'insulte.
Oui, je prends des risques, je sais, mais j'aime ça, ma discipline, c'est le taquinage artistique, je vous le rappelle. Alors, j'ai été demandé à un candidat directement, un candidat France Insoumise. Il s'appelle Maxence Albespi, et il se présente en Seine-Saint-Denis. Lui, il n'est pas parachuté, mais est-ce que ça le gêne pas, ce genre de pratique?
Moi, personnellement, j'y prête pas d'importance tant que le député fait son boulot derrière.
Si par exemple Mélenchon était arrivé dans votre circo en disant « tu te pousses, c'est moi ».
Personnellement, j'aurais compris, parce que il a beaucoup plus de notoriété.
C'est vrai?
Ah ouais?
Ah, mais dis donc, elle est vachement soumise, la France Insoumise, finalement. Alors, leur argument, c'est de dire que c'est un mandat national, député, ça c'est vrai. Mais pour des gens qui veulent faire de la politique autrement, ça ressemble quand même vachement à celle qu'on connaît déjà de politique. Alors, pour finir, je suis allé voir directement Alexis Corbière.
Bon, alors, vous n'êtes pas parachuté?
Mais ça veut rien dire.
C'est vrai que ça allait vous énerver.
Non, parce que moi, j'ai vécu longtemps à Montreuil et je m'amuse à dire j'ai habité plus longtemps que le maire actuel ou le député actuel. Et j'en fais pas argument, franchement.
Mais non, parce que sinon, Jean-Luc, il aurait bien l'air court à côté. Et c'est dommage, je rappelle qu'on cherche pas des vedettes, mais des représentants venus de partout en France. Et je vous rappelle au passage également les paroles du chant des Insoumis de tout temps, l'International, qui disent ceci: il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun.
Merci Guillaume Meurice. Et on salue la Fédération Française de Parachutisme qui a énormément de travail en ce moment et qui enregistre beaucoup, beaucoup de nouvelles inscriptions.
Et Twitter, bien évidemment, par la même occasion.
Merci Guillaume. Nous sommes en compagnie de Claire Chazal. On va en profiter, on va aborder ce deuxième sujet avec vous. La reproduction des dauphins et des orques en captivité est désormais interdite en France par un arrêté royal. Parce qu'il est signé par Ségolène Royal.
Ah, voilà.
C'est une blague belge.
Oui, c'est marrant.
Bref, c'est la fin amorcée des parcs animaliers. Dans ces cas-là, on écoute le groupe écolo de la chanson française. Je vous propose un petit extrait de Trio.
Ah oui. Greenpeace, il faut sauver les dauphins. SOS, l'Antarctique ne va pas très bien. Tous les arbres sont nos amis. L'argent vous a rendu aigri. De Kingston jusqu'au Sable d'Olonne. On se bat contre Babylone, les patrons et les politicos. L'argent vous a rendu pas beau, peace. Il faut sauver les dauphins, SOS. L'Antarctique ne va pas très bien.
Le Palmachot, bien sûr, dans son imitation, sa parodie de Trio. La réduction de la souffrance animale, c'est un combat qui trouve un écho grandissant aujourd'hui, jusqu'à ce que, ben voilà, Ségolène Royal, 15 jours avant de claquer la porte du ministère de. Enfin, de claquer, non, de devoir partir oui. du ouais, ministère de l'Environnement.
Elle est partie en la claquant, elle était énervée.
Elle souhaitait y rester.
Oui, elle aurait souhaité, c'est vrai. Ouais. Voire partir vers d'autres compétences internationales. Mais Ségolène Royal a profité de ces derniers jours pour poser un acte fort, c'est de cet arrêté qui interdit la reproduction à l'intérieur, par exemple, des delphinariums. C'est le cas de celui d'Antibes, par exemple. Ça, c'est aussi un indice que notre société évolue grandement, parce que ce côté souffrance animale, ça date pas d'aujourd'hui, mais là, ça prend quand même un tour où la conscience évolue assez rapidement.
Oui, c'est vrai que depuis maintenant un certain temps, les scandales sur les abattoirs se multiplient. On a beaucoup traité. Ça va sans doute avec le développement des thèses. Enfin, c'est une évidence ce que je dis. Avec le sentiment qu'on est sur une planète qui s'abîme et qu'il faut protéger la nature, donc les espèces
animales. La prise
animales.
De conscience est là, vous voulez dire.
Je pense que oui. Enfin, chaque président ou candidat qui ne traite pas assez d'écologie, on le lui reproche. Et sans faire une publicité pour le gouvernement Macron, mais enfin, un ministre d'État à l'écologie, c'est un signe, quoi. C'est un signe qui rattrape un peu le fait qu'on n'en avait pas beaucoup parlé pendant la campagne.
Et ces delphinariums, ces parcs animaliers, ça fait selon vous œuvre plus pédagogique ou de divertissement, ou les deux ?
Je n'ai pas un avis très arrêté, moi, sur cette question. Je sais que j'ai emmené mon fils à Antibes pour voir les
deux. Allez, vous sortez. Vous prenez vos affaires, vous sortez.
Il aurait même nagé
avec
les dauphins.
Comme énormément de
comme
gens.
Pas mal de parents. Oui.
Et arrêtez, on le dit aux parents. Ne faites pas ça, en fait.
Mais pour ce qu'ils veulent.
Non.
On a toujours un pincement quand on va dans les zoos, c'est sûr. On se demande si ces animaux ne sont pas horriblement malheureux. Bon, voilà, en même temps.
Isabelle Serrande, c'est une de vos questions... principale, oui. Ça, de réflexion.
Oui, Charline.
Précisément, oui. C'est arrêté, donc qui interdit la reproduction. Donc, ça veut dire qu'à terme, d'ici une vingtaine d'années, on n'aura plus d'orques, de dauphins dans...
Ils ne peuvent pas se reproduire.
En fait, moi, le monde que je connaissais mieux, c'était celui des abattoirs industriels et des élevages où j'avais fait l'enquête. Mais là, en fait, c'est vrai que les poissons, on imagine moins. Quand on voit effectivement des lions dans des toute petite cage, on sait que c'est des animaux qui ont besoin de voir loin, etc. Et c'est assez clair, comme vous disiez, Claire, qu'on se dit, oh là là, ils tournent en rond, c'est pas terrible. Les poissons, on imagine moins, mais...
Là, c'est les cétacés, hein,
ouais,
carrément.
Donc des mammifères. Non, mais je veux dire, dans des animaux aquatiques, mais je veux bien croire, moi, qu'ils soient un peu à l'étroit. Hein.
Eh bien, Isabelle
Serrande... Ils parcourent plus des centaines de kilomètres par jour, normalement, donc là, ils peuvent pas...
Oui, la seule évolution possible, c'est qu'on a retiré le chlore principalement, donc c'était déjà,
mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on est dans un monde où on a tous besoin d'images sur internet, dans la communication, et puis là c'est des points où on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux et on va voir les derniers comme ça dans des eaux, donc il y a quelque chose d'un petit peu tragique en fait, même dans la question qui est posée.
Isabelle Serrande, puisque vous avez le micro, je vous propose de le garder.
Je vais le garder, donc je vais essayer de faire une transition rapide sur une expérience qui m'est arrivée hier dans le métro. J'ai été le témoin d'une scène urbaine classique que vous avez tous déjà vu sans doute. Un homme d'environ 30 ans qui devait penser à autre chose s'est trompé d'escalator. Il a pris le mauvais escalier roulant dans le sens de la descente. Je vois Alex, ouais, que vous connaissez le problème. Il s'est rendu compte donc de son erreur au bout de quelques marches et a dépensé une énergie désespérée pour remonter les marches qu'il a tiré inexorablement vers les profondeurs. Son effort a tout de suite suscité l'empathie des autres voyageurs, un peu comme les gens qui courent pour attraper la rame. Et toujours, il y a quelqu'un qui va maintenir la porte ouverte au moment du départ. Là, tout le monde s'est écarté pour que cet homme puisse remonter les marches parce que, vu son affolement, c'était urgent pour lui. C'était clair que chaque minute comptait, ce qui a suscité une grande vague de sympathie. Tout le monde s'est mis à sa place. Tout le monde voulait qu'il remonte, non pas la pente, mais l'escalier roulant, ce qui est bien pire. Et le garçon s'en est sorti. Il n'a pas trébuché, il n'a pas eu d'accident comme cette malheureuse chinoise qui a fini déchiquetée par un escalator en 2015 dans une galerie marchande de la province du Hubei. Oui, je sais que c'est horrible.
Oui, ben, comme à chaque fois, vous riez.
Mais j'aime bien. J'ai lu ça ce matin sur Wikipédia parce que je me documentais sur les escalators pour vous écrire une chronique sérieuse. Et je me demande pourquoi cette scène de l'homme qui remonte l'escalator en sens inverse nous hante un peu comme la chasse à l'homme ou comme des images comme ça archétypales. Pourquoi on la voit dans tellement de films, ce qu'elle a au fond de si fascinant, de si classique. Alors peut-être que c'est générationnel puisque les escalators se sont développés en France dans les années 70 et que je fais partie de cette génération bienheureuse qui a grandi entre deux marées noires et deux escaliers roulants. Les escalators, c'est quelque chose qu'on voit dans les gares et dans les grands magasins. Ça sert à faire monter et descendre beaucoup de gens et des gens chargés de valises ou mieux encore des gens chargés de sacs de shopping. L'escalator a été inventé en 1897 par un Américain, Jesse Reno, qui a remporté le premier prix de l'exposition universelle à Paris en 1900, ce qui fait de l'escalator l'un des symboles du XXe siècle avec le bombardement. Ce qu'ils ont en commun tous les deux, l'escalier roulant et le bombardement, c'est l'efficacité. Le bombardement, c'est l'efficacité en temps de guerre, minimum de gestes pour maximum d'effets. Et l'escalator, c'est l'efficacité en temps de paix, minimum de mouvements, productivité optimale, consommation accrue. Car l'escalator est le signe du shopping, comme les hirondelles sont celui du printemps et le pentacle celui du sorcier. Il n'y a qu'à jeter un œil à la galerie Beaugrenelle, juste à côté de cette noble maison. Et c'est génial d'y faire un tour parce qu'on se croirait dans la zone de transit de l'aéroport de Bangalore, c'est vrai, ou de Barcelone. Il ne manque plus que les avions. Partout où il y a des escalators, vous devez aller vite, mais tuer le temps en achetant quelque chose. Oui, le peu de temps qu'il vous reste, vous devez le tuer. Partout où il y a des escalators, vous êtes dans une galerie marchande, même si vous êtes dans un musée. Vous êtes dans une galerie marchande, même si vous êtes au cinéma. Vous êtes dans une galerie marchande, même si vous êtes dans une gare. Je te salue, escalator. Double abîme du shopping qui monte et qui descend. Ce que murmure ta mécanique, c'est « va plus vite, mais ne fais pas un geste. Ne bouge pas et achète beaucoup. » Et on pourrait s'en réjouir, hein. On pourrait positiver, puisque c'est la mode, en se disant qu'après tout, l'escalator est le signe que nous voyageons en première classe du Titanic quand toutes n'ont pas cette chance, puisque beaucoup voyagent en soute. Sauf si on prend l'escalier roulant en sens inverse. C'est fou comme la vérité se révèle. En sens inverse, cette image de l'homme qui court comme un fou pour rester à la même place. Cet homme qui court comme un fou pour être à la hauteur, pour ne pas être broyé par la mécanique. Cet homme, dans un sens, nous lui ressemblons tous. J'aurais voulu terminer par une petite chute, hein, mais une chute dans un escalier roulant, c'est peut-être dangereux. Alors voilà, l'histoire s'arrête là.
Merci Isabelle Sorante. Et là, vous avez lu très très vite par rapport à d'habitude, oui. Sans doute mue par le sujet. Non,
exactement, c'est mon côté empathique. En fait.
On le dit par contre, s'il y a des escalators qui nous écoutent, ils auront un droit de réponse. Hein, parce que là,
ah oui, il faut le leur donner. Oui, ouais.
Eh bien, nous méditerons, Isabelle Sorante, sur ce que vous venez de dire. Parce que
devant l'escalator.
Eh oui, comme quoi les petites choses du quotidien développent des dissertations avec Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. On va aborder ce dernier sujet avec vous, Claire Chazal. Je rappelle que vous lisez les correspondances d'Alain Fournier et Madame Simone en compagnie de Jules Sago. Ce sera dimanche 11 juin à 14h. C'est dans le cadre du festival Intimité publique à la Pépinière Théâtre avec notamment aussi Fanny Cottençon, Vincent Dedienne, Michel Viermoz, Société de la Comédie Française, ainsi que Jacques Weber notamment. Je vous renvoie bien sûr au programme qui est disponible sur Internet. Le troisième sujet, quand il s'agit de sanctionner les abus d'une émission de télévision, c'est la publicité qui semble faire la loi et pas le gendarme de l'audiovisuel, le CSA, qu'on salue, qu'on embrasse. La pub ne pense qu'à ses intérêts et pourtant, ici, elle semble plus morale que l'autorité. Est-ce que vous savez pourquoi les sages du CSA ne sont pas encore intervenus alors qu'il existe pourtant une procédure d'urgence? Parce que les réunions au CSA, ça se passe comme ça.
Et maintenant, c'est moi qui commande, je suis le plus grand.
Roi.
C'est moi qui commande, je suis le plus grand.
Non, c'est moi qui commande parce que je suis le plus fort.
Non, c'est moi qui commande, je suis le plus gros.
Non, c'est moi qui commande parce que je suis le fauteuil.
C'est moi. Le gendarme de Saint-Tropez de l'audiovisuel. Alors, Claire Chazal, vous qui avez travaillé pour un groupe privé, qui bossait maintenant dans le public, que la pub soit plus efficace finalement en matière de sanctions, que l'autorité qui est censée être compétente, vous, ayant travaillé pour le privé, finalement, ça vous étonne pas? Ou est-ce que les proportions ici, dans le cas de l'émission de Cyril Hanouna, elles vous semblent assez significatives? C'est quand même curieux que ce soit c'est l'argent de la pub, bim, qui sanctionne finalement
c'est-à-dire
l'émission.
Ça, c'est une efficacité plus... Vous aviez raison de souligner qu'il n'y avait pas de procédure d'urgence et c'est ça, au fond, qui nous étonne. Mm-hmm. Parce que le CSA a lancé des injonctions, des avertissements. Je crois que d'ailleurs la chaîne a été assez souvent condamnée. C'est pas la première fois. Oui. C'est vrai que pour faire appliquer ces sanctions, c'est toujours un peu long. La publicité, c'est immédiat, c'est sûr. Il suffit d'appeler et de dire je ne veux plus qu'on passe mes écrans publicitaires. Et là, je crois que la perte dépasse le million d'euros, ce qui n'est pas rien. Évidemment, ça fait réagir instantanément les chaînes. Bon, moi, j'ai jamais vécu ça sur TF1 parce que il n'y a jamais eu de dérapage.
Vous n'avez jamais fait de canular pendant le JT?
Jamais. nous étions observés à la loupe par le CSA qui, quand même, sous-pèse à la seconde près tous les temps de parole.
Ah, ça, oui. Là, c'est efficace. Là, on a vu.
Là, on est enserré. Hein.
Pour que le FN ait du temps de parole, ça, il y a de l'efficacité.
Ça, on est efficace. Et nous nous plions, bien naturellement, à toutes les règles, scrupuleusement. Pour le reste, il n'y avait pas de scandale. Il y a eu assez peu d'injonctions.
Et jamais des sujets dans le journal où une marque pouvait être mise en cause et c'est embêtant parce qu'il y a un spot de pub à une heure de grande écoute.
Non, ce qui a plutôt été souligné, c'est parfois des erreurs qu'on pouvait commettre. Et c'est vrai. Par exemple, je me souviens de cet exemple, on avait parlé d'un débat à l'Assemblée nationale qui se déroulait de nuit. Et les images que nous avions passées, je crois qu'elles étaient tournées une autre nuit que le jour
de vote.
Fake news.
Donc c'était.
Comment voulez-vous qu'on vous croie?
C'était quand même un hémicycle à moitié vide, comme toutes les nuits, mais c'était pas exactement
les mêmes
le bon jour. Donc il n'y avait pas
lieu. En tout cas, une procédure de sanction est ouverte. Hein. La chaîne avait déjà fait l'objet de deux mises en demeure, pour la méconnaissance du respect de la dignité humaine. Déjà deux mises en demeure, et voilà. Donc là, la pub a, évidemment pour ses intérêts d'image et d'argent, mais finalement, paraît plus morale. Enfin, soit ça, on l'a déjà dit, parce qu'on est énervé avec cette histoire.
Oui,
ça nous agace.
On partage cet énervement. Oui,
effectivement. Oui. Et pour se détendre,
derrière vous, Claire Chazal, il y a notre musicien, notre chanteur à la guitare, Frédéric Fromet. Vous avez la chance parce que d'habitude c'est le vendredi, mais là il vient de jeudi. Et de quoi il va nous chanter aujourd'hui?
Je vais vous parler de l'attentat à Manchester.
Appuyons là où ça fait mal.
Ouais, en m'adressant notamment au jeune public, puisque c'est lui qui était visé. Un gros débile se rend à Manchester pour s'éclater, littéralement. D'où cette nouvelle expression populaire qui dit que la bédie vient en explosant. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles qui se font sauter, éparpillés, n'en parlons plus. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles, où voyons pourquoi dans un concert ils sont perdus. Peut-être que le gros débile confond une boum avec un boum, d'où la détonation. Peut-être qu'il danse comme un gros loukoum, alors il se venge comme un gros con. Là où on voit qu'il est nul en musique, c'est qu'il ne sait produire qu'un seul son. Avec une bombe, c'est vrai que c'est pas pratique, même un djembé man lui donnerait une leçon. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles qui se font sauter, éparpillés, n'en parlons plus. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles, où voyons pourquoi ils sont plus cons qu'une laitue. Tout simplement parce qu'avec leur salade, ils sont sourdingues, complètement abrutis. Non, il ne s'agit pas d'avoir fait le djihad quand on dit d'un concert que c'était une tuerie. Comment vous dire, espèce de trou de balle, que pour le spectacle, vous n'avez rien compris. C'est exagéré de faire péter la salle quand on demande de faire du bruit. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles qui se font sauter, éparpiller, n'en parlons plus. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles, où voyons pourquoi en popstar ils seraient foutus. Tout simplement parce que par nature ils sont pas gentils avec leur clientèle. Après avoir déclenché leur ceinture, ils sont jamais là pour faire un rappel. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles qui même par le dernier de l'Eurovision seraient battus. Ah, les gros gros gros, les gros gros gros, les gros débiles qui se font sauter, éparpiller, n'en parlons plus.
Merci, merci Frédéric Fromet. Et j'ajouterai, en citant Romain Gary dans La promesse de l'aube, Romain Gary qui dit « L'humour est l'affirmation de la dignité de l'homme sur ce qui lui arrive. » Et vous venez d'en faire la démonstration. Merci. Frédéric Fromet. Des fois, on doit mettre un petit sous-texte parce que, l'esprit Charlie, tout le monde n'a pas les codes. Claire Chazal, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes venue vous voir pour Intimité publique, ce festival qui a lieu à la Pépinière, théâtre, lettres, correspondances, carnet, journal. C'est du 9 au 11 juin. Si vous aimez les correspondances, on vous encourage à y aller. C'est un très beau festival. Vous lisez les correspondances d'Alain Fournier et Madame Simone en compagnie de Jules Sago, adaptation libre d'Anne Rottenberg et Gérard Ster, et puis mise en lecture, comme on dit, de Richard Brunel. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci à vous, bonne ascension.
On va se retrouver demain avec un florilège, avec Florence Foresti et Philippe Tesson, qui a été magistral. On vous conseille l'émission.
On gagne une auditrice, Claire Chazal va écouter.
Et on laisse le mot de la fin à Cyril Hanouna.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans.